Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux droits des mineurs. Entre protection et responsabilité, quelles sont les règles quand un enfant est victime ou auteur d'un délit et ou un crime ? Trois avocats du barreau du Val d'Oise nous éclairent sur les enjeux de la justice des mineurs et je les remercie tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Maître Julie Gaspari.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté une nouvelle fois de participer à l'émission Tous les droits. Votre cabinet est situé à Pontoise, vous exercez notamment en droit des mineurs et vous partagerez avec nous votre expertise dans cette matière très spécifique et en constante évolution. Merci de votre présence aujourd'hui. À vos côtés, Maître Jean-Baptiste Audier, bonjour.
Bonjour Sonia.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Votre cabinet est situé à Pontoise, vous exercez en droit de la famille, droit du travail, droit pénal des mineurs, assistance éducative et droit de la construction. Merci de partager cette matinée avec nous. Enfin, Maître Anaïs Tos, bonjour.
Bonjour Sonia.
Votre cabinet est situé au Plessis-Bouchard.
Exactement.
Bonne réponse. Vous intervenez en droit pénal et en droit des mineurs. Je vous remercie également d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue et merci à vous trois. Nous sommes sur IDFM Radio. C'est un nouveau numéro de Tous les droits. Une émission, bien sûr, à retrouver en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli IDFM Radio. Je débute toujours mes émissions par un petit tour de table pour que les auditeurs fassent connaissance avec mes invités. Maître Gaspari, les auditeurs vous connaissent. Je vous propose de vous représenter de nouveau et de nous expliquer comment vous êtes devenu avocat.
Oui, alors ils me connaissent à un bien grand mot, mais effectivement j'ai déjà eu le plaisir de venir vous voir et je vous remercie pour cette invitation renouvelée. Comment je suis devenue avocate ? Eh bien écoutez, tout simplement. En tout cas, en passant, comme nous tous, le CAPA, le certificat d'obtention d'aptitude à la profession d'avocat, après avoir fait un cursus universitaire et à Cergy et à Nanterre, à l'université de Nanterre. J'ai passé un master en sciences criminelles, je crois qu'il existe toujours d'ailleurs à Nanterre. Et ensuite, j'ai intégré l'école d'avocat après avoir passé le concours d'entrée. Et puis, on fait à peu près 18 mois à l'école d'avocat de Versailles, enfin de Viroflay plus exactement. Et à la sortie, on passe ce qu'on appelle le CAPA et nous voilà enfin avocat au bout de 7 ans environ d'études minimum après avoir passé le bac. Et puis, première collaboration en 2012 dans un cabinet que nous avons fréquenté toutes les deux, je crois,
un
Sonia.
Beau cabinet.
Voilà. Et je me suis mise à mon compte en janvier 2019. Donc, ça fait maintenant quelques années que j'exerce seule. Enfin, seule. Que j'exerce en tout cas à mon compte en libéral sans avoir de collaboration.
Très bien. Et alors, vous intervenez en droit des mineurs, Maître Gaspari. Alors, c'est une matière que vous affectionnez, j'imagine, particulièrement, puisque vous la pratiquez quotidiennement. Mais est-ce que, c'est les clients qui ont fait que vous avez débuté dans cette matière, ou est-ce que, c'était un attrait particulier pour la cause des mineurs?
Oui, parfaitement. Enfin, je pense vraiment que si on n'a pas l'envie particulière de faire du droit des mineurs, c'est compliqué d'exercer correctement dans ce domaine. Dès le début, alors je crois que maintenant c'est plus le cas, mais moi quand je suis arrivée en 2012, il fallait avoir au moins 2 ans d'exercice. Je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste Audier, qui est membre de la commission mineure auprès et membre du Conseil de l'Ordre, mais je parle sous son contrôle, mais il me semble qu'à l'époque, il fallait avoir exercé au moins 2 ans pour pouvoir, avant de pouvoir intégrer le groupe mineur. Je crois que c'est
tout à fait
plus le cas aujourd'hui.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Voilà. Donc, j'ai attendu les 2 années, j'ai fait les formations, j'ai suivi les confrères plus expérimentés dans leur permanence et j'ai enfin pu effectivement commencer à pratiquer cette matière en pénal ou en assistance éducative. Mais oui, clairement, c'est une vraie volonté, c'est parfois même un engagement, je dirais, d'exercer cette matière, parce que c'est très très prenant, c'est une matière à part entière qui est complètement différente des autres matières qu'on peut traiter dans notre profession
et qui change régulièrement. Enfin, je veux dire, les réformes du droit des mineurs,
non, vous aussi, il y a eu une grosse réforme lorsque le code de justice pour mineurs est entré en vigueur 2021, pardon. Voilà. Heureusement que mes confrères sont là. J'avais un doute. Donc, il y a eu effectivement une grosse refonte à ce moment-là. Et puis, on suit évidemment les changements. Mais je crois que notre confrère Jean-Baptiste Audier nous en reparlera des changements qui ont pu être opérés et des actualités. Mais oui, c'est une matière qui bouge beaucoup et sans compter les réformes elles-mêmes, c'est plutôt nos jeunes qui finalement changent beaucoup, évoluent, et il faut absolument évoluer avec eux pour continuer à les comprendre et les assister au mieux.
Oui, parce que les jeunes changent et grandissent et nous on vieillit. Donc du coup, il faut continuer à...
un écart peut facilement se créer.
Merci pour toutes ces précisions. Maître Jean-Baptiste Audier, alors je suis très heureuse de vous recevoir, Maître Audier, puisque vous êtes un avocat référent en droit des mineurs sur notre barreau. Je ne l'ai pas dit, je dirais plutôt un avocat expérimenté. Alors votre cabinet à vous, je l'ai dit, est situé à Pontoise. Vous avez une activité, votre cabinet en tout cas, puisque vous allez nous l'expliquer, mais vous êtes associé avec Maître Grima.
Oui.
Vous êtes un cabinet généraliste. En tout cas, vous intervenez en droit du travail, droit des affaires, droit de la famille, droit pénal et droit de la construction. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre parcours, de ce cabinet que vous avez créé maintenant il y a quelques années?
Il y a 19 ans.
Voilà.
Il est majeur. Il est majeur. Non, mais c'est mon troisième enfant, c'est pour ça qu'il est majeur. Moi j'ai eu la vocation assez jeune, à 12-13 ans je crois, en cours d'histoire, comme je suis très vieux. La professeure avait organisé un débat sur la peine de mort qui avait été abolie quelques années auparavant, et je me suis retrouvé tout seul à défendre l'abolition contre toute la classe qui trouvait ça très normal de tuer des gens qui tuaient des enfants, etc. Et je me suis dit que c'était assez sympathique de défendre des causes et d'être un peu tout seul contre tous. Et c'est un peu comme ça qu'on exerce quand on prend la parole pour défendre quelqu'un. Donc voilà, j'avais pas d'avocat dans la famille, mais j'ai péniblement réussi mon cursus à l'université et j'ai prêté serment et j'ai découvert la justice des mineurs de façon assez banale, je dirais. J'avais une patronne qui était sur le groupe de défense des mineurs à l'époque. Quand on débute dans la profession, on fait des permanences pour mettre du beurre dans les épinards, voire carrément acheter des épinards, parce qu'au début, c'est quand même un peu compliqué. Et elle m'a sollicité un week-end, parce qu'elle devait avoir mieux à faire, pour que je fasse sa permanence à sa place. Et j'ai découvert donc les mineurs à cette occasion, et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et c'est une phrase qu'il faut pas sortir du contexte de dire qu'on ne fait que des mineurs ou que les mineurs ça nous plaît, parce que ça peut prêter à confusion. Mais en tout cas, c'est une activité, une clientèle qui est assez particulière et qui fait qu'on est avocat un peu différemment de quand on défend des majeurs au pénal, en tout cas, et qui n'est pas faite pour tout le monde. Tous les avocats peuvent pas devenir spécialisés dans la défense des mineurs. Il y a un peu deux camps, il y a ceux qui ont envie de leur mettre des tartes, c'est comme ça qu'ils le présentent, mon activité, en disant « je ne sais pas comment tu fais pour les supporter ». Et il y a ceux qui, justement, à l'occasion de la défense d'un mineur, découvrent qu'un mineur qui devient délinquant, c'est un mineur qui va pas bien, et donc du coup, on actionne d'autres ressorts pour défendre, et c'est très intéressant.
Parce que vous les suivez, en fait, il y a un droit de suite. J'imagine que ces enfants, vous les voyez donc aussi évoluer. Bon, j'espère des fois favorablement, d'ailleurs.
Oui, ça arrive. Et c'est d'ailleurs très satisfaisant. Alors, bon, on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais ce serait bien que cette émission serve à faire un peu comprendre aux gens qui ont une vision de la justice qui est qu'ils ont à travers les médias, etc. Et on dit énormément de bêtises dans les journaux et dans les médias. Il y a 93% des mineurs qu'on ne voit qu'une fois. Les mineurs récidivistes représentent 7% de la population mineure délinquante. Ces 7%-là, c'est évidemment les plus durs. Les 93% sont ceux qui testent les limites et qui, pour faire comme les copains, etc., vont commettre un délit une fois et qu'on va plus jamais revoir parce que les parents, parce que le cadre, parce que la justice va poser une réponse et que ça va aller. Et puis, il y a ces 7% qui, pour certains qu'on voit presque toutes les semaines, et qui, évidemment, est la plus difficile à traiter et à faire rentrer dans le rang. Et on a effectivement un droit de suite qui peut s'exercer depuis la garde à vue jusque toutes les audiences qui concerneront ce mineur. On sera systématiquement sollicité et effectivement ça crée un lien et ça permet de connaître le mineur, de connaître son contexte et donc a priori de mieux le défendre.
Merci pour ces précisions et ces chiffres. C'est justement, je vous remercie de le rappeler, l'objectif de cette émission, c'est d'être pédagogique, de mettre des chiffres sur des ressentis. Donc merci d'avoir rappelé ces chiffres. Alors vous exercez ce beau métier d'avocat, mais vous exercez aussi des fonctions ordinales.
Oui.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu?
Je suis le chef de ces deux. Je m'occupe effectivement de la commission mineur depuis 2 ans environ. Je suis membre du conseil de l'ordre depuis 3 ans et je m'occupe aussi de la commission aide juridictionnelle qui est une commission très chronophage. Et effectivement, je suis l'interlocuteur avec Anaïs qui m'accompagne dans cette mission du tribunal, des services éducatifs, de la protection judiciaire de la jeunesse. On essaye de faire en sorte que quand il y a des dysfonctionnements, ça dysfonctionne plus, etc. Et c'est à la fois très chronophage et très intéressant d'essayer très modestement de faire en sorte que les choses s'améliorent et que la justice fonctionne mieux ou moins mal. Ça dépend si on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.
Ouais, merci pour ces précisions. Effectivement, je le rappelle souvent, les avocats du barreau du Val d'Oise sont organisés en ordre. On a une bâtonnière maintenant avec des gens et des confrères qui travaillent avec elle et je vous en remercie vivement. Et voilà, donc c'est un barreau organisé et grâce à ces commissions, les avocats, vous l'avez dit, travaillent s'il y a des dysfonctionnements dans certaines matières en relation avec la juridiction, ce qui fait, je peux le dire tout à fait modestement, un ordre qui fonctionne très bien, qui est très efficace, avec des groupes organisés dans chaque domaine d'intervention. Voilà. Donc merci Maître Audier pour votre investissement pour le barreau sur ces délégations que vous avez de notre bâtonnière. Maître Anaïs Tos, alors vous aussi, vous travaillez également pour l'ordre dans la commission mineure.
Alors, j'accompagne exactement Jean-Baptiste depuis pratiquement 2 ans. Je suis pas élue et je n'appartiens pas à proprement parler à la commission mineure, mais j'accompagne Jean-Baptiste qui a fait appel à moi plutôt en termes de soutien et aussi pour pallier à toutes les difficultés d'organisation et administratives que l'on peut rencontrer au sein de notre groupe mineur.
Et vous êtes avocate depuis quand, Maître Anastos?
Alors, c'est un peu un long parcours. Donc, j'ai un profil un petit peu particulier. J'ai exercé en qualité de clerc assermenté, anciennement appelé huissier de justice, dans une étude du huissier de justice, maintenant que l'on appelle commissaire de justice, durant toutes mes années à la fac. À la suite de ça, j'ai obtenu le certificat dont parlait Maître Gaspari tout à l'heure, donc le CAPA. Et j'ai fait un double cursus, pardonnez-moi, en droit pénal et en droit social. Après l'obtention de ce certificat, j'ai penché vers une collaboration exclusive en droit social. J'ai intégré des gros cabinets anglo-saxons et c'était absolument pas ma place. Je n'étais absolument pas épanouie. Et je me suis, à cet effet, redirigée dans le Val d'Oise. au sein d'un cabinet où j'ai exercé en qualité de collaboratrice pendant 3 ans, exclusivement en accompagnant des mineurs, tant des mineurs auteurs délinquants renvoyés devant le juge des enfants ou au tribunal pour enfants, ainsi que beaucoup d'enfants victimes. On va peut-être l'évoquer tout à l'heure, mais voilà, j'accompagnais les enfants qui étaient victimes notamment d'infractions intrafamiliales et ou infractions sexuelles également. Et puis, à l'issue de ces 3 ans, eh bien, j'ai pris mon envol et je me suis installée tout d'abord à Pontoise et puis après vers d'autres horizons, Plessis-Bouchard, mais toujours dans le Val d'Oise que j'affectionne et que j'ai connu depuis toute petite. Donc, originaire de cette ville, bien évidemment qu'il me fallait utilement la rejoindre et exercer professionnellement dans cette ville. Et oui, j'exerce principalement en droit des mineurs, exclusivement en droit pénal. Et j'affectionne beaucoup cette matière parce que, comme Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, il y a un lien particulier qui se crée avec les mineurs. Nos clients sont vraiment... la stratégie à mettre en place, elle est différente que lorsqu'on est face à des majeurs. Le lien de confiance, les discussions, les échanges. Parfois, et même encore ce matin, je dois vous faire une confidence avant d'arriver, j'étais en audience en assistance éducative, j'accompagnais une mineure que j'accompagne depuis plusieurs années. Et il y a des choses à laquelle on arrive plus facilement à dire à son avocat qu'à tout autre intervenant qui peut être professionnel de soins, de santé, juge, administrateur, familier. Voilà. Et je trouve que c'est un lien particulier et il faut effectivement se former, il faut performer, il faut vraiment continuer à les accompagner parce que c'est pas tous les jours évident.
Merci pour votre engagement. Merci à tous les trois d'avoir partagé vos parcours. Je vous propose de marquer une première pause musicale et de nous retrouver pour la suite de notre émission.
Toi, moi, nous, le plus doux des écrins. Baiser tout, le moins doux les embruns. Toi, moi, nous, se cacher dans les coins. Tout va, tout vient. Mais toi, moi, nous, c'est bien. Toi, moi, nous, faire un bout de chemin. Rendez-vous, prochaine vie, dernier train. Toi, moi, nous, oublier tout chagrin. Fais-moi sourire. Le rire nous va bien. Toi, moi, nous, c'est mieux que dans les rêves. Plus ça goûte, moins je désire de trêve. Toi, moi, nous, chaque jour j'ai la fête. On ne sait rien. Mais toi, moi, nous, c'est bien. J'aime le vin, l'ivresse nous va bien. Toi, moi, nous, l'alcool et la violence. À genoux, debout, maman, silence. Des mots fous, des frissons de latence, des coups de sang. Je t'ai dans la peau, même dans les os.
êtes bien sur IDFM Radio.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit des mineurs et ils vont répondre à mes questions qui vont permettre d'aborder en définitive toutes les problématiques auxquelles les mineurs ou leurs parents peuvent être confrontés, que les mineurs soient responsables ou qu'ils soient victimes. Plusieurs questions. Je commence par Maître Gaspari. Une question pour vous. À partir de quel âge un mineur est-il responsable pénalement ?
Alors, vaste question. Alors, peut-être déjà commencer par préciser que ce que on entend par responsable pénalement, on considère que on entend par responsable pénalement un mineur qui est accessible à une sanction, qui peut avoir une peine pénale. Et là, la réponse, en fait, elle se trouve et dans le code pénal et dans le code de justice pour mineurs, puisqu'en fait, le code pénal va nous dire que tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, des délits, des contraventions dont ils ont été reconnus coupables. Ça, c'est le code de, c'est le code pénal. Donc la question, évidemment, c'est d'accord, mais qu'est-ce qu'un mineur capable de discernement ?
Qu'est-ce qu'un mineur capable de discernement, voilà. Maître Gaspari ?
Et là, c'est le code de justice pour mineurs, qu'on appellera CJPM, hein, pour être plus rapide, qui finalement va lui mettre une présomption d'âge, en fait. On va considérer que les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Et donc, au contraire, le mineur qui est âgé de 13 ans et un jour, en fait, lui est présumé être capable de discernement. Alors, on dit présomption parce que même si, dans la plus grande majorité des cas, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, ça veut dire présomption, ça veut dire que le juge peut considérer, dans des cas bien particuliers, que un mineur de moins de 13 ans serait responsable pénalement. Alors, il faut une infraction particulièrement grave et il faut que le juge motive particulièrement une décision lorsqu'il décide qu'un mineur de 13 ans peut être pénalement responsable. Et à l'inverse, on pourrait considérer qu'un mineur de plus de 13 ans ne serait pas capable de discernement. Pareil, dans des, c'est du cas par cas, hein, mais dans des conditions particulières. Et donc, considérer que même s'il a plus de 13 ans, il ne serait pas responsable pénalement. Mais la règle absolue, enfin la règle et qui est utilisée, c'est vraiment cette question d'âge, moins de 13, plus de 13.
Et ça a toujours été le cas ou c'est une...
Alors avant l'entrée en vigueur, donc en 2021 du CJPM, c'était l'ordonnance dite de 45 qui, alors elle ne posait pas... alors je parle sous contrôle de mes confrères, mais je crois qu'elle ne posait pas de d'âge et qu'en fait il y avait une question de discernement qui était définie par de la jurisprudence, par la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un très vieil arrêt qui définissait légalement ce qu'on entendait par discernement et en fait cette jurisprudence a été reprise dans le CJPM qui maintenant fixe un âge de manière plus précise.
C'est ça. Absolument. Exactement.
Vos confrères sont unanimes. Vous avez parfaitement bien expliqué l'âge auquel un mineur peut être responsable pénalement. Donc 13 ans, sauf s'il est capable, on estime qu'il est capable de discernement. Et dans ce cas-là, oui. Il faut que ce soit des faits, j'imagine, peut-être très graves.
Oui. Et en fait, le CJPM va poser vraiment une définition. Alors après, on y met, encore une fois, c'est du cas par cas, mais le discernement, c'est vraiment quand le mineur a compris et a voulu l'acte et qu'il a été... Il est apte aussi à comprendre que derrière, ça engage une procédure pénale et qu'il va être capable de comprendre ce que ça veut dire engager une procédure pénale et quelles vont être les conséquences de cette procédure sur sa personne.
D'accord, très bien, c'est très clair. Et là, je pense à cette série Adolescence ou Adolescence sur Netflix.
Je ne sais pas
si vous avez vu cette série, justement.
Moi, je l'ai vue.
Alors, Anaïs Tos, en qualité d'avocat mineur, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce que j'ai souvenir que, justement, ce mineur donc, qui est placé en garde à vue, puis, j'imagine, en détention, on lui pose la question, enfin, on essaie d'identifier s'il avait conscience de ce qu'il avait fait.
Absolument. Et alors, moi, ce que j'ai pensé dans un premier temps de cette série, c'est que d'un point de vue psychologique, j'invite vraiment l'ensemble des gens à regarder cette série parce que ça fait réfléchir. Je vais pas spoiler un petit peu la fin.
Hein, non, bien évidemment. Non, spoiler pas parce qu'en plus, il y a une nouvelle saison qui arrive. Mais on ne sait pas. Mais bon,
Évidemment, je me tairai, mais effectivement, j'invite, parce que d'un point de vue psychologique, vraiment, la réflexion est très intéressante. La présence de l'avocat également, la présence du papa. Et pourquoi le papa et pas la maman, c'est aussi important. Pourquoi est-ce qu'il fait le choix qu'on prévienne son papa et que ça soit lui qui l'assiste à chaque fois? C'est très important. Après, au regard de son âge, je vais pas dire de bêtises, donc je me souviens plus exactement s'il avait moins de 16 ou plus de 13 ans. Ce qui est, c'est que ça, je vais pas spoiler non plus, mais ouais, effectivement, il y a eu des poursuites judiciaires à son encontre, et donc, je pense qu'à ce moment-là, on a considéré qu'il avait le discernement, entier pour répondre de son acte.
Très bien.
C'est une série française?
Non, c'est une série étrangère.
Les règles sont peut-être un peu différentes.
Les règles sont peut-être différentes, mais il y a des similitudes avec notre système. Enfin, on y reviendra puisqu'on va parler de la garde à vue des mineurs. Mais en tout cas, la réflexion, je pense, est universelle. Voilà, sur le comportement des adolescents, la manière dont on doit aussi gérer de nouvelles problématiques de harcèlement, cyberharcèlement, les violences sexistes, sexuelles, un support de discussion que je trouve très intéressant, et ça, j'avais envie d'avoir le retour d'un avocat qui exerce en droit des mineurs pour savoir si voilà, c'était quelque
Regardez
chose.
Regardez cette série.
Voilà, merci pour ce teaser. Maître Gaspari, nous continuons avec vous sur la question du placement en garde à vue d'un mineur. Est-ce qu'un mineur peut être placé en garde à vue, et si oui, pour quelle durée, et quels sont ses droits pendant cette mesure?
Oui, alors c'est une question qui revient beaucoup. C'est vrai que j'interviens pas mal dans les établissements scolaires, et cette question, elle hante les esprits de nos jeunes et aussi des parents. Alors, c'est encore une fois une question de palier d'âge. Faut savoir que avant l'âge de 10 ans, ça peut paraître voilà, mais avant l'âge de 10 ans, il y a aucune retenue possible. Ce n'est pas autorisé par la loi. Donc, si jamais un enfant de 10 ans, je pense qu'on peut vraiment parler d'enfant, est amené au commissariat de police. Les officiers de police doivent ou de gendarmerie doivent impérativement appeler les représentants légaux dans un délai le plus bref possible et le remettre entre les mains de ces représentants légaux le plus rapidement possible. Il n'y a pas de tolérance sur un enfant de moins de 10 ans. Entre le premier palier, après, c'est entre 10 ans et 13 ans. Là, il ne s'agit pas d'une garde à vue, mais d'une retenue, qui est une retenue devant le service de police ou de gendarmerie. Ça doit rester exceptionnel. Vraiment, la retenue d'un mineur de moins de 13 ans a un caractère exceptionnel. Et puis, évidemment, il y a des conditions. Donc, la première, c'est qu'il existe des raisons, ce qu'on dit plausibles, de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, hein, évidemment, et que la peine normalement, l'infraction dont il est soupçonné d'avoir commis est puni d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement, ça c'est la première condition, et que évidemment la retenue soit le seul moyen pour éviter que la destruction de preuves, pour le tenir à disposition de la justice, ça c'est les conditions un peu générales en réalité de la garde à vue, mais donc faire encore plus attention lorsqu'on est dans le cadre d'une retenue pour un mineur de moins de 13 ans. Donc dans ce cas-là, s'il a moins de 13, la durée, elle peut pas excéder 12 heures. Et elle peut être... Alors évidemment, le procureur de la République doit être informé de cette mesure de garde à vue. Et il peut, à titre vraiment très exceptionnel, la prolonger pour une durée de 12 heures maximum. Mais elle doit être évidemment motivée par le magistrat qui doit voir le mineur et qui doit lui notifier sa prolongation. Ça, c'est pour les mineurs de moins de 13. Entre 13 et 16, donc j'ai 13 ans et un jour et j'ai 15 ans et 11 mois... Là, on parle de garde à vue. Hein, le mineur peut être placé en garde à vue pour les mêmes conditions. Hein, je suis soupçonnée d'avoir commis une infraction. Là, la durée, c'est 24 heures. Pareil, avec une présentation au magistrat et une prolongation possible de 24 heures, donc une durée maximale de 48. Au-delà de 16 ans, on va finalement se rapprocher de la garde à vue du majeur. puisque la durée de 24 heures, elle peut être prolongée deux fois. Donc, on peut arriver à deux prolongations, même si, encore une fois, la prolongation de la garde à vue, elle nécessite la présentation préalable du mineur devant le procureur de la République. Ça peut être, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, par visioconférence, le magistrat va rentrer en contact avec le mineur et lui prolonger sa garde à vue, mais c'est 76 maxi pour un mineur de plus de 16 ans.
Et quels sont les droits d'un mineur placé en garde à vue ?
Alors, sensiblement les mêmes que ceux des majeurs. Le premier, c'est... la différence, c'est que les auditions des mineurs en garde à vue, elles sont obligatoirement filmées, ce qui n'est pas... Alors, ça peut être le cas pour des majeurs, mais pour des cas particuliers, mais la règle pour les mineurs, c'est audition filmée. Ça peut parfois ne pas fonctionner, mais dans ces cas-là, l'officier de police doit préciser que le matériel est défaillant, qu'il n'a pas pu enregistrer. Enfin, ça doit faire l'objet d'un procès-verbal distinct dans la procédure. Ça, c'est vraiment un droit qui diffère de celui des majeurs. Les droits classiques, ensuite, informer un membre de la famille, donc évidemment les parents ou le tuteur ou le représentant légal. Pour les mineurs, et pour les majeurs aussi, mais... Ça en fait encore plus sens, le droit d'être assisté par un avocat. Le mineur, évidemment, lui, il doit être assisté par l'avocat durant toute sa retenue. Et sa famille peut être aussi informée qu'un avocat, soit de permanence, du groupe mineur, va être appelé pour l'assister. Ou alors, la famille peut aussi dire aux officiers de police ou de gendarmerie qu'ils ont un avocat et qu'ils voudraient que ce soit celui-là précisément qui intervienne. Il va y avoir évidemment le droit à l'examen médical puisque le mineur doit voir un médecin dans le cours de sa garde à vue. D'ailleurs, parfois les mineurs disent non, c'est pas la peine, etc. Il faut voir un médecin en garde à vue. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les locaux de la garde à vue. Si on arrive et que on va très bien et qu'on ressort et que on a un petit bleu à droite, un petit bleu à gauche ou qu'on a quelques blessures, c'est bien de pouvoir montrer que quand on est rentré en garde à vue, on avait un certificat médical qui montrait aucune blessure. Je le glisse là, à bon entendeur. Sont les droits principaux qu'on a en garde à vue.
Donc, un mineur est assisté d'un avocat le temps de sa
garde à vue. Il a un droit à un entretien de 30 minutes.
D'accord.
Confidentiel.
D'accord.
Et ensuite, l'avocat est présent pour chacune des auditions, des confrontations si nécessaire. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de prendre la parole les avocats pendant les auditions. En revanche, on peut, à la fin de l'audition, poser des questions et faire des observations écrites qu'on peut remettre dans la procédure. Mais nous, quand on arrive en garde à vue, on ne connaît absolument pas le dossier. On connaît seulement l'infraction pour laquelle le mineur est placé en garde à vue. C'est tout. On n'a pas d'autres informations. Quelles preuves ont les forces de l'ordre ? On ne le sait pas. Donc c'est tout l'exercice un peu périlleux de l'assistance en garde à vue des mineurs et même des majeurs. Hein. C'est qu'on a très peu d'informations et donc il faut aussi composer avec ça et il faut aussi le savoir.
Merci pour toutes ces précisions. Une nouvelle pause musicale afin que nos auditeurs puissent intégrer les informations capitales que vous venez de nous délivrer sur la mesure de garde à vue pour les mineurs. À tout de suite.
Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi, même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent, quand on souriait pour rien. On s'aimait trop. Je pense à toi, presque obsédé, je pense à toi. Dépossédé, je pense à toi, trop fatigué. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi.
je me dégoûte, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent quand on souriait pour rien. On s'aimait trop. J'étouffe, je pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent quand on souriait. S'aimer trop pour s'aimer bien. On était beau pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent quand on souriait pour rien. On s'aimait trop.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits et nous poursuivons cette passionnante émission avec mes trois invités, tous avocats en droit des mineurs. Avant la pause musicale, nous abordions la question des droits des enfants mineurs placés en garde à vue. Anaïs Tos, maître Anaïs Tos, j'ai une question pour vous. Est-ce que un mineur peut demander à ce que l'un de ses parents assiste à ses auditions en plus de son avocat ?
Absolument, Sonia. Effectivement, c'est un droit que le mineur, dont le mineur dispose, c'est-à-dire qu'à toutes les étapes de la procédure, ses parents peuvent être présents, que ce soit au stade des auditions en garde à vue, que ce soit dans l'audition libre, que ce soit après devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants, devant la cour d'assises des mineurs et ou devant le juge d'instruction au fin de mettre en examen et ou de son interrogatoire. Néanmoins, ce principe, il est un peu nuancé parce que si c'est un droit. Par exemple, lorsqu'un mineur est entendu dans le cadre d'une garde à vue, les enquêteurs peuvent estimer que, en fonction de la personnalité et de la maturité du mineur qui l'auditionne, la nécessité de comparaître avec ses parents n'est pas applicable. Personnellement, et c'est purement subjectif de ma part, lorsqu'un mineur fait l'objet d'une garde à vue, si j'ai l'occasion de rencontrer les parents en amont ou qu'ils m'ont désigné, je leur indique que je ne souhaite pas qu'ils soient présents. Et si je n'ai pas contacté les parents, eh bien généralement les enquêteurs font en sorte aussi de ne pas prévoir la présence des parents. Tout simplement parce que c'est un moment où on a besoin de recueillir de la parole d'un enfant, on a besoin de sincérité et ou de stratégie de défense, ça dépend de quel côté on se place. Et parfois, je dis bien parfois, attention, la présence des parents peut être un obstacle. Parce qu'ils vont être gênés, parce qu'il va y avoir une honte, parce qu'il va y avoir un sentiment peut-être de regard différent s'il y a son papa ou sa maman à côté, alors que devant l'enquêteur, c'est la police, et peut-être qu'on aura plus de fluidité dans les échanges. Et moi, je préfère lorsque les parents n'interviennent pas, parce que parfois, ça peut être très compliqué aussi de manière gestion des émotions des parents, voir leur enfant qui leur répondent devant la police à certaines questions particulières.
Oui, c'est une épreuve pour tout le monde, pour le mineur, pour les parents.
Absolument.
Très bien, merci pour ces précisions. Une nouvelle question pour vous. Devant quelle juridiction comparaît un mineur coupable d'infraction ou de crime ?
Je vais reprendre votre question,
Reprenez
Sonia.
Reprenez ma question, Anaïs.
On n'est pas coupable avant d'avoir comparu. Et donc, je fais écho parce que je sais que vous avez reçu l'un de mes confrères, Frédéric Zajac, qui a absolument tenu à rappeler notre principe essentiel, la présomption d'innocence. Et donc, j'y tiens aussi une attache importante parce qu'effectivement, il l'a très bien rappelé, hein, on est coupable lorsqu'une juridiction nous l'a condamné et que... comme nous sommes en présence de mineurs et j'ai la fâcheuse habitude de reprendre lorsqu'on n'est pas rigoureux dans cette matière, je le fais avec vous. Vous m'excuserez, Sonia ?
Je vous pardonne.
Et donc, s'agissant de votre question, dans un premier temps, il y a une juridiction dans laquelle le mineur peut comparaître, mais qui n'est pas une juridiction spécialisée, c'est le tribunal de police. Le tribunal de police, un mineur peut être convoqué devant cette juridiction, alors que pour toutes les autres, c'est une juridiction spécialisée. Donc, pour les contravention de première à quatrième classe, le mineur sera renvoyé devant cette juridiction. Quand je dis qu'il n'y a pas de juridiction spécialisée, c'est que c'est pas un juge des enfants, c'est pas un magistrat qui a suivi une formation particulière. Il va recevoir tant des mineurs que des majeurs dans cette audience et donc parfois c'est important que l'avocat rappelle certains principes essentiels, notamment le fait que ce soit des audiences dites à huis clos et donc la publicité est interdite pour qui souhaiterait être présent au-delà des responsables légaux. Ça, c'est important. Puis après, en termes de sanctions, bien évidemment. Autre juridiction devant laquelle le mineur peut comparaître, le juge des enfants. Lorsque un mineur est âgé de moins de 13 ans, comme Maître Gasparri vous l'a dit, ou de plus de 13 ans, mais qu'une peine encourue pour l'infraction qu'on lui reproche est inférieure à 3 ans, ce sera donc le juge des enfants qui sera compétent. Petite précision, nous exerçons tous dans le Val-d'Oise. Dans le Val-d'Oise, nous avons 10 juges des enfants parce que nous avons un département très 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 développé et très important sur la présence de magistrats. Ce ne sont pas dans toutes les juridictions, nous avons autant de magistrats en juge des enfants. Donc, je le disais, à peine encouru 3 ans d'emprisonnement, l'âge du mineur, de moins de 13 ans ou 13 ans et plus, si la peine est toujours encourue et toujours inférieure à 3 ans. Enfin, le tribunal pour enfants, lorsque le mineur est âgé de plus de 13 ans et que la peine encourue pour les infractions ou l'infraction qu'on lui reproche est supérieure à 3 années d'emprisonnement. Quand je dis 3 ans, à chaque fois, c'est bien sûr des années d'emprisonnement. Si jamais l'infraction qu'on lui reproche est qualifiée de criminelle, nous passons devant la cour d'assises des mineurs à savoir que seules les infractions pour lesquelles le mineur est âgé de plus de 16 ans au moment des faits et constitue un crime sont renvoyées devant la cour d'assises des mineurs. Plus simplement, si le mineur, si l'infraction qu'on reproche au mineur est un crime, mais que ce dernier a moins de 16 ans, eh bien, le tribunal pour enfants, statuant donc en matière criminelle, restera compétent et ne sera pas renvoyé devant la cour d'assises des mineurs. C'est important donc à chaque fois de bien regarder l'âge qu'avait l'enfant au moment des faits, parce que ça va influer sur la compétence de la juridiction devant laquelle il va comparaître.
Donc l'âge de l'enfant au moment des faits. C'est ce que je retiens comme critère.
Absolument. Et pour la distinction du juge des enfants et du tribunal pour enfants, la peine encourue de l'infraction qu'on lui reproche et pour laquelle il est convoqué.
Donc, vous avez rappelé que c'était des audiences à huis clos.
Oui.
Et alors, il y a des audiences, je fais de mémoire, parce que je ne pratique pas du tout le droit des mineurs. Et donc, il y a des audiences aussi en cabinet,
Absolument. C'est quoi, alors, vous avez l'audience devant la juridiction en salle d'audience, le tribunal pour enfants, le tribunal de police, je le disais. Ensuite, en audience en cabinet, c'est-à-dire que vous avez le mineur, le magistrat qui va le déclarer coupable ou le relaxer, en tout cas qui va le juger, accompagné de ses représentants légaux et son avocat, bien évidemment, puisque l'avocat est obligatoire à tous les stades de la procédure et les audiences en salle d'audience classique, mais toujours à huis clos, qui sont celles du tribunal pour enfants. La cour d'assises également, en salle commune. Ce qu'on appelle la salle commune, c'est que ça peut être la même salle que les majeurs là où ils comparaissent, en tout cas, composé toujours de magistrats chargés du suivi des mineurs. Donc un magistrat président de cour d'assises et deux assesseurs en principe, parce qu'il peut y avoir des exceptions, en principe chargés des fonctions de juge des enfants.
Oui, donc les magistrats qui ont à connaître de situations d'enfants mineurs présumés coupable ou je sais pas, ou victime, donc sont spécialisés en fait. Ce sont des juges pour enfants. Ils ont suivi une formation particulière, j'imagine.
Absolument. Celui qui siège au tribunal pour enfants, en revanche, que l'on soit bien clair, celui qui préside la cour d'assises, non, mais il est accompagné systématiquement de deux assesseurs qui doivent exercer les fonctions de juge des enfants.
Donc des magistrats entre guillemets spécialisés, des avocats de préférence qui interviennent à titre principal, je sais pas comment on dit, en droit des mineurs, parce que c'est vraiment quand on vous entend rappeler les âges, les juridictions, voilà, c'est une spécificité, le droit des mineurs. Il y a des groupes mineurs, donc il y a des avocats qui sont spécialisés en mineurs. Il faut avoir une formation particulière pour intervenir en droit des mineurs.
Il faut avoir effectivement, Sonia, il faut avoir obtenu et déjà le droit d'intégrer ce groupe mineur. Et donc comment est-ce qu'on fait partie intégrante de ce groupe? Eh bien, on a suivi des formations au préalable, on a regardé accompagné avec un tutorat les avocats en audience, on a rencontré aussi des mineurs, on a suivi le début jusqu'à la fin avant de pouvoir intégrer ce groupe. Et c'est important parce que il faut savoir que, mais je pense que Maître Audier va nous le rappeler, mais dans le Val d'Oise, on attache une particulière importance à le fait que le même avocat puisse intervenir pour le mineur et qu'il puisse le suivre. On vous disait qu'il y avait une faible proportion de mineurs récidivistes à hauteur de 7%, ce que je partage totalement, qui vous a été remonté par Maître Audier. Et pour ces 7% que parfois nous sommes amenés à rencontrer, à revoir, eh bien, on attache une importance à ce que ce soit l'avocat premier intervenant qui puisse le suivre la deuxième fois ou la troisième fois, le cas échéant, pour qu'on puisse vraiment apporter le plus d'informations sur sa personnalité, sur son évolution et expliquer ce qui a penché, les failles, les carences familiales et autres toutes raisons, et pour le connaître parfaitement. Donc oui, il faut avoir une appétence particulière pour le droit des mineurs. Oui, une fibre particulière, je pense. Et surtout, cette volonté de ne jamais le lâcher et toujours l'accompagner dans toutes les juridictions ou en toute convocation qu'il pourra avoir à l'avenir.
Il y a combien d'avocats sur ce groupe mineur?
Maître Audier, vous avez la parole.
Les chiffres.
90
ah oui.
sur 500 avocats. Et pour compléter la réponse d'Anaïs, pour que vos auditeurs aient des chiffres, le tribunal pour enfants de Pontoise est le cinquième de France. Je crois que le Val d'Oise est le département le plus jeune de France en moyenne d'âge. Et la juridiction et le mineur a affaire à des... effectivement à des acteurs spécialisés à une exception près, et c'est d'ailleurs assez regrettable, et Anaïs et Julie ne me contrediront pas, c'est les policiers. Magistrats du parquet sont spécialisés, on a 5 substituts mineurs sur une trentaine de substituts à Pontoise qui ne s'occupent que des mineurs, on a 10 juges des enfants, il en faudrait environ 12 pour que la juridiction respire. Et le seul moment où le mineur est au contact d'acteurs qui ne sont pas spécialisés, c'est les policiers qui enquêtent. Alors évidemment, il y a des brigades spécialisées pour les mineurs, mais qui font pas le tout venant, qui sont là pour les infractions les plus graves. Et on constate très régulièrement, et surtout dans certains commissariats, que je ne nommerai pas, Argenteuil, Hermont, Sarcelles, qu'il y a des policiers qui se comportent très mal avec les mineurs, mais tout simplement parce qu'ils sont pas formés, et puis parce qu'ils ont l'impression que dès l'instant où ils vont être présentés à un juge des enfants, le juge des enfants va lui faire un chocolat, un sourire, et va le renvoyer chez lui, parce que la justice des mineurs est présentée comme laxiste, etc. Mais on y reviendra tout à l'heure sur l'actualité de cette matière. Mais c'est pas le cas du tout. Et on a des procédures qui sont souvent un peu moins bien menées que lorsqu'elles concernent des majeurs. Et les policiers le disent d'ailleurs un peu ouvertement quand... moi, j'avais participé à une table ronde une fois où les policiers, et c'était pourtant un service d'enquête avec lequel il n'y avait pas trop de difficultés, mais qui disait, voilà, en présence d'avocats et de juges, disait, bah nous, oui, on n'est pas très motivés quand on doit travailler pour des mineurs, parce que avant qu'un mineur soit incarcéré, ce qui pour un policier doit être un peu l'imaginaire de la sanction logique, on l'interpelle, on vous le présente, vous le relâchez et on le réinterpelle le lendemain ou le surlendemain. Ce qui est très caricatural et ce qui est pas du tout représentatif de ces fameux 93-7. Et donc c'est une difficulté qu'on rencontre nous on n'a pas de difficulté avec la juridiction, que ce soit parquet ou siège. En revanche, oui, avec des services enquêteurs, c'est parfois un peu plus chaud.
Et heureusement, le mineur doit être assisté d'un avocat, oui. Donc les avocats interviennent dans ces locaux. Oui. Dont vous n'avez pas cité le nom, et c'est...
Jamais.
Non, jamais.
Devoir de réserve.
Ouais, merci pour ces précisions. Maître Anaïstos, une dernière question avant de marquer une nouvelle pause musicale. On y a déjà plus ou moins répondu, mais les mineurs sont-ils obligatoirement représentés par un avocat lorsqu'ils sont convoqués devant un juge des enfants ?
Obligatoirement, Sonia. Obligatoirement. Peu importe si l'enquêteur vous dit non, je comprends très bien, tu n'as pas besoin d'un avocat, non, il ne va pas venir. Je ne dirai pas les commissariats qui sont ceux cités par Maître Audier, mais effectivement, il peut arriver que parfois on récupère des procédures et on s'aperçoit que l'avocat aurait été contacté, il n'est pas venu, ce qui est absolument pas possible. Et je fais une petite parenthèse, hein, je l'ouvre, je me permets, c'est avec la réforme qu'il y a eu l'été dernier sur la présence de l'avocat en garde à vue, les enquêteurs doivent attendre l'avocat. Et encore plus quand ce sont des mineurs, donc ils ne peuvent pas être auditionnés sans la présence des mineurs. Pareil, lorsqu'ils sont présentés immédiatement devant le juge des enfants aux fins de recevoir leur convocation devant le tribunal pour enfants ou au juge des enfants. Pareil lorsqu'ils comparaissent devant le juge des enfants au tribunal pour enfants et d'autant plus lorsqu'ils comparaissent devant la cour d'assises des mineurs. Toujours accompagnés d'un avocat.
Donc si les parents n'ont pas d'avocat, s'il n'y a pas d'avocat choisi, l'ordre se charge donc de désigner des avocats pour représenter ses enfants.
Absolument. Dès le stade de la garde à vue, s'il n'y a pas d'avocat qui a été désigné par les parents ni choisi par le mineur, parce que rappelons également que le mineur a la possibilité de désigner son avocat. Et évidemment, des fois, il y a un petit conflit parce que c'est pas le même que les parents auraient à décider de choisir. L'intérêt du mineur avant tout, il faut que celui-ci soit assisté. Et si jamais ni l'un ni l'autre ne font le choix de désigner un avocat, l'ordre du barreau du Val d'Oise fait appel à un des avocats du groupe mineur spécialisé pour intervenir en garde à vue lorsque c'est un mineur. Également, lorsqu'il comparaît devant le juge des enfants au tribunal pour enfants, si on s'aperçoit qu'il a pas d'avocat à ce stade-là, on désignera, en tout cas, leur désignera également un avocat faisant partie de ce groupe dont on a évoqué tout à l'heure.
Merci. Jean-Baptiste Audier voulait réagir.
On est 5 avocats de permanence tous les jours pour les mineurs en garde à vue. Il y a un avocat de permanence pour les déferments tous les jours, samedi, dimanche inclus. Il y a un avocat de permanence pour les audiences sur COPJ devant le juge des enfants. Donc on est entre 5 et 10 tous les jours à être mobilisés pour justement pourvoir aux mineurs qui sont en garde à vue, qui sont présentés devant un juge des enfants. Voilà.
Merci pour ces précisions.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Nous poursuivons notre émission du jour consacrée aux droits des mineurs. Maître Jean-Baptiste Audier, des questions pour vous. Quelles sanctions peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur déclaré pénalement responsable ?
Ben, on va reprendre les paliers.
Allons-y.
On va reprendre les paliers et on va reprendre les différents modes de poursuite. Toutes les sanctions peuvent être prononcées contre un mineur. Toutes celles qui sont prévues par le code pénal. Prison, amende, travail d'intérêt général. Et alors, on a des sanctions spécifiques pour les mineurs qui n'existent pas, ou en tout cas qui ne portent pas ce nom-là pour les majeurs, qui sont l'avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire. On parlera peut-être tout à l'heure, ou on peut peut-être en parler maintenant, de l'excuse de minorité, puisqu'elle a été un peu au cœur de plusieurs débats ces dernières semaines, avec des hommes politiques que je ne nommerai pas, mais alors pour le coup je ne les nommerai pas parce que je n'ai pas trop suivi, mais il m'est revenu aux oreilles le fait qu'il était question de supprimer l'excuse de minorité, ou en tout cas d'inverser le principe, c'est-à-dire de faire que l'excuse de minorité soit l'exception et que... Donc on fait toujours... En fait, on revient toujours un peu aux mêmes discussions quand on parle de la justice des mineurs, ce que je vous disais tout à l'heure sur le raisonnement et j'allais dire la réflexion, mais c'est peut-être un peu exagéré, de plusieurs forces de l'ordre qui considèrent que la justice des mineurs est trop laxiste, qu'ils ne sont pas assez sévèrement punis, etc. Les mineurs font l'objet d'un traitement particulier parce que ce sont des délinquants particuliers. Et c'est pas en inversant le principe d'excuse de minorité qui deviendrait l'exception qu'on réglera les problèmes de délinquance qui, alors j'ai pas les chiffres précis, mais je l'ai relu il y a pas très longtemps, qui sont stables. Il n'y a pas d'explosion de la délinquance des mineurs. Ça, c'est une idée qu'il faudrait pouvoir supprimer de tous les débats quand les gens expliquent que, en revanche, ce qui est vrai, et moi je le constate puisque je suis encore une fois très âgé, et que ça fait presque 20 ans maintenant que je m'occupe des mineurs, les comportements sont plus violents aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et ils étaient déjà plus violents il y a 20 ans qu'il y a 40 ans, etc. Mais il n'y a pas d'explosion en volume de la délinquance, elle est stable. Donc il faut effectivement sanctionner plus sévèrement, mais le principe fondamental qui gouverne et la justice en général et notre travail au quotidien en particulier, c'est que un mineur a besoin d'être redressé, comme on disait jadis, en tout cas qu'on s'intéresse à faire en sorte qu'il ne récidive pas. Et que, après avoir commis un délit, ce soit le premier et le dernier. Et donc, pour ça, on a des outils. Et le principal problème qu'on rencontre au quotidien, c'est vrai pour le pénal, mais c'est encore peut-être plus vrai pour l'assistance éducative dont on parlera tout à l'heure, c'est les moyens. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a, alors donc je sais pas combien de temps, mais c'était Nicole Belloubet. Donc c'était il y a 5 ou 6 ans. Elle avait promis une enveloppe de plusieurs millions d'euros pour la protection judiciaire de la jeunesse. La protection judiciaire de la jeunesse, c'est les éducateurs qui accompagnent les mineurs. Alors, c'est rarement dès leur premier délit, mais quand on voit qu'on a un mineur dans les 7%, avant de l'incarcérer, on essaye donc de faire en sorte que ce qui va pas dans sa vie et qui fait qu'il est devenu un mineur délinquant s'améliore, et donc on travaille. Et on travaille avec des éducateurs qui sont formés spécialement pour ça. Et elle avait promis de renforcer les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse. Et la quasi-totalité de l'enveloppe était destinée à construire de nouveaux centres éducatifs fermés. Donc tous les acteurs, ce qui n'était pas le cas de Mme Belloubet, qui n'y connaissait rien, tous les acteurs s'accordent à dire que c'est la mesure, et l'accompagnement du mineur qui marche le moins bien. Et plutôt que de réfléchir à mettre de l'argent là où ça fonctionne bien, elle voulait créer plus de centres éducatifs fermés. J'imagine, en réponse à une polémique de l'époque où un mineur avait commis sans doute un délit ou un crime très grave, etc. Et à chaque fois, la réponse, on va faire plus de répressifs, alors que ce qui est au cœur de la justice des mineurs, c'est au contraire que c'est l'éducatif qui doit primer. Et il est beaucoup plus intéressant de pallier les carences qu'un mineur a pu rencontrer dans les premières années de sa vie, carences familiales, sociales, éducatives, etc., plutôt que de l'envoyer en prison ou dans un centre éducatif fermé où il va rien faire, si ce n'est rencontrer d'autres mineurs qui sont dans la même situation de précarité que la sienne. Et donc, c'est ce qu'on dit souvent pour... moi, je fais plus de pénal majeur, mais c'est ce qu'on dit souvent, qu'un délinquant sort pire de prison que quand il y est entré. Parce que c'est pareil, en prison, on fait pas de réinsertion. Enfin, en tout cas, on n'en fait pas assez, etc. Donc, ce qui fait que un mineur est traité différemment, c'est parce que c'est un enfant. Et on est avocat d'enfants, on est juge des enfants. Et c'est pas... Alors, effectivement, il y a des mineurs qui, aujourd'hui, à 16, 17 ans, ont des comportements qu'ils n'avaient peut-être pas il y a quelques années, mais c'est pas grave. Tant qu'on est sous ce seuil fatidique, parce que au-delà de 18 ans, et à Pontoise, on a une juridiction pénale qui n'est pas la moins répressive, au-delà de 18 ans, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de primauté de l'éducatif, et on a 18 ans, et moi, je me souviens très bien, ça choquera peut-être certains de vos auditeurs, mais j'accompagnais un mineur qui avant 18 ans avait 60 affaires à son, non pas à son casier, mais à ce qu'on appelle Cassiopée, qui est le logiciel qui enregistre toutes les affaires, y compris celles qui sont classées. Mais donc, il est arrivé à 18 ans avec une soixantaine d'affaires. Il avait été finalement incarcéré en détention provisoire quand il était mineur, parce que tout ce qu'on avait essayé de mettre en place avait échoué. Et j'ai appris, donc il a 23 ans aujourd'hui, il n'est pas sorti de prison depuis qu'il a 18 ans. Et 6 mois, je crois. Voilà. Donc, on a essayé, quand il avait moins de 18 ans. Les policiers, s'ils avaient connaissance de ça, râleraient ou me donneraient tort en disant « Vous voyez bien que tout ce que vous avez essayé de mettre en place, ça n'a pas fonctionné. » Oui. Alors, c'est encore une fois l'exception qui confirme la règle. Et depuis qu'il est passé majeur, il a malheureusement recommis un délit. Et il n'est pas sorti de prison depuis. Il a tout un tas de sursis qui sont tombés. Et donc, ça fait 5 ans qu'il est incarcéré. Donc, nous, acteurs de la justice des mineurs, notre but, c'est effectivement, dans un premier temps, quand un mineur comparaît pour la première fois, sauf évidemment si c'est une affaire criminelle, des sanctions éducatives. Donc, soit un avertissement, c'est souvent le premier étage de la fusée pour un mineur, c'est d'avoir un avertissement judiciaire. Et ensuite, on passe à la vitesse supérieure. On va faire du pré-sentenciel, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre une période de mise à l'épreuve éducative. On va confier le mineur à un service éducatif, mais... Alors, c'est pareil. Parlons de moyens. Il y a 4 unités éducatives dans le Val-d'Oise. Courdimanche, Cergy, Arnouville, Sarcelles et Argenteuil. En moyenne, ce sont des unités qui devraient accueillir une quinzaine d'éducateurs pour fonctionner correctement. En moyenne, il y a entre 15 et 80 mesures en attente toute l'année. Parce que les éducateurs ne sont pas assez nombreux. Et que, du coup, les mesures mettent du temps à se mettre en place. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a donc pas de travail qui est fait autour du passage à l'acte, autour des difficultés que le mineur peut rencontrer. Et c'est un temps où, malheureusement, dans les 7% dont on parlait tout à l'heure, il va y avoir de la récidive ou de la réitération. Et donc, il faudrait qu'on ait des éducateurs en nombre suffisant. Il faudrait un psychologue par unité éducative. Il faudrait un travailleur social par unité éducative. Il faudrait pas plus de... Alors, je crois qu'ils ont 30 ou 40 mineurs. Il faudrait peut-être 20 mineurs par éducateur. Voilà. C'est juste une question de... C'est pas une question de faire du répressif, et moi je dis pas ça parce que je considère que en tant qu'avocat de mineurs et qui intervient en défense, il faut pas qu'il soit sanctionné. Bien sûr qu'il faut qu'il soit sanctionné. Mais la sanction, elle va être adaptée à la personnalité, à la gravité des faits et à des facteurs qui sont, qui peuvent, s'agissant d'enfants, qui trouvent leur, c'est souvent des facteurs un peu exogènes qui expliquent leur passage à l'acte. Je dis souvent qu'un mineur qui a ses deux parents et qui va à l'école tous les jours, en général, c'est pas ceux-là qu'on défend en garde à vue. Et donc ces mineurs-là, il faut les aider en fait. Il faut juste les aider et pas simplement faire du répressif et de on va supprimer l'excuse de minorité. Enfin, c'est le contraire de ce qu'il faut faire en fait.
Merci pour toutes ces précisions.
Mais
qu'on
j'ai pas bien
si
répondu à la question.
Il y a une gradation des sanctions. On comprend que la prison et le paroxysme, c'est pour les sanctions, enfin les crimes ou les infractions les plus graves. Qu'avant il y a des mesures qui sont mises en place, qui si elles ne fonctionnent pas pour les 7% dont vous avez parlé, tiennent aussi, notamment au manque de moyens et pas forcément à l'inefficacité de la mesure en elle-même.
Oui, mais si ça peut rassurer vos auditeurs, on a un établissement pour mineurs sur l'Ouest parisien, à Porcheville, dans le 78. On a des quartiers mineurs dans les maisons d'arrêt de Fleury, de Villepinte, etc. Ils sont tous pleins. Ils sont tous pleins. Il y a de la place nulle part. Et il n'y a pas de place dans les centres éducatifs fermés non plus, mais ça, c'est pas plus mal. Parce qu'encore une fois, ça marche pas. Enfin, à quelques exceptions près. D'ailleurs, les rapports sont disponibles. C'est très intéressant. J'invite vos auditeurs à aller consulter sur le site des contrôles de lieux privatifs de liberté. il y a tous les centres éducatifs fermés de France sont visités à intervalles plus ou moins réguliers. Il y a un rapport qui est fait avec des préconisations qui sont envoyées au ministre. En général, on a la réponse du ministre poli qui dit « Oui, oui, j'ai bien noté que dans ce CEF, il y a telle et telle difficulté. Mes services vont faire en sorte que ça disparaisse. » Évidemment, ça disparaît jamais. Et ces rapports sont très éloquents sur l'état dans lequel on traite aujourd'hui. Alors, on peut dire « On va envoyer les mineurs les plus dangereux sur l'île de Jersey » ou sur l'île de Guernesey, comme ça on en sera débarrassé. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut qu'on continue à vivre tous ensemble, et il faut qu'on tous, à notre place, on fasse ce qu'on peut pour aider ces gamins qui sont avant tout des gamins qui sont perdus et qui sont dans une très grande précarité.
Merci pour tous ces rappels, votre engagement et ces informations. Les rapports dont vous parlez sont disponibles. Oui. J'invite aussi les auditeurs à consulter le site Service Public, qui est très bien renseigné aussi, pour connaître les droits et les sanctions à l'encontre des mineurs. Je vous propose de marquer une nouvelle pause avant de poursuivre notre émission.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous écoutez l'émission Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit des mineurs et nous poursuivons cette émission avec Maître Julie Gaspari, Maître Jean-Baptiste Audier et Maître Anaïs Tos. Maître Audier, une question encore pour vous. Est-ce que les parents peuvent être inquiétés en cas de condamnation pénale de leurs enfants, et qu'en est-il sur le plan civil?
Alors, sur le plan pénal, non. La responsabilité pénale en France est une responsabilité individuelle. Sur le plan civil, oui. Puisque les mineurs sont par définition insolvables et les parents sont civilement responsables de leurs enfants au moins jusqu'à leurs 18 ans, enfin légalement jusqu'à leurs 18 ans. Donc si un mineur est condamné à des dommages et intérêts, ce sont les parents et le cas échéant l'assureur des parents et le cas échéant le mineur s'il a 17, 18 ans au moment de son jugement et qu'il travaille. Tout le monde pourra être mis à contribution pour payer les dommages et intérêts. Les parents peuvent se voir administrer des amendes civiles uniquement, mais ils sont pas pénalement responsables. Et si l'amende n'est pas une peine, on parlait des sanctions tout à l'heure, l'amende est une peine qui est très rarement décernée à l'encontre d'un mineur, puisque par définition, comme il est insolvable, c'est une sanction qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et on n'en a pas parlé, on individualise les sanctions dans le droit pénal français, y compris donc, et j'allais dire surtout pour les mineurs. Et j'ai cru lire ou entendre que cette fameuse proposition de loi d'un ancien éphémère Premier ministre avait pour objet de rendre justement les parents plus responsables. Alors je sais pas si c'est au niveau pénal ou au niveau civil. Au niveau civil, je vois pas comment ils peuvent l'être plus, puisqu'ils sont déjà solidairement responsables avec leurs enfants des condamnations civiles. Si c'est les rendre pénalement responsables, c'est à nouveau traiter le problème de façon complètement... c'est traiter le problème à l'envers. Alors il y a des parents qui peuvent être défaillants dans l'éducation de leurs enfants, et je pense pas que ce soit en les sanctionnant à l'occasion d'un passage à l'acte de leur fils ou de leur fille que ils vont se découvrir être des parents formidables. Il y a déjà des choses qui sont faites lorsque des enfants sont un peu à la dérive. Il est pas rare que à l'occasion d'un énième passage à l'acte, le juge des enfants s'auto-saisisse en assistance éducative pour essayer de pallier les difficultés qui sont rencontrées par le mineur et ses parents. Mais le principe de la responsabilité pénale individuelle, c'est un des principes fondamentaux de notre système juridique. Et encore une fois, on essaye, au lieu d'essayer de faire correctement ce qui existe déjà en mettant les moyens nécessaires, on essaye de trouver des palliatifs qui sont un peu de la poudre aux yeux qu'on jette aux gens comme ça en leur disant on va responsabiliser les parents, donc forcément, même s'ils sont dans une grande précarité, ils vont s'occuper de leurs... Non, on sait très bien que non. Donc c'est à nouveau pas une réforme ou une mesure qui permettrait d'endiguer un phénomène de délinquance qui trouve ses sources dans des facteurs sociaux de précarité. Et c'est pas en tapant sur la tête des parents qu'on va les faire sortir justement de cette précarité.
Pour rassurer quand même les parents, donc vous parliez des assurances qui peuvent garantir les condamnations prononcées à l'encontre de leurs enfants sur le terrain civil. Donc c'est les assureurs
responsabilité civile
que les parents souscrivent
oui, leur assurance habitation.
Avec leur assurance habitation, c'est d'accord. C'est pas celle qu'on souscrit quand ils sont scolarisés, les enfants, là, les assistances.
Ça c'est encore autre chose.
Hein.
C'est une assurance scolaire, mais quand on loue ou quand on achète un bien, on a une assurance obligatoire et c'est une assurance responsabilité civile pour garantir les entre guillemets les accidents de la vie, dont les condamnations civiles, donc dommages et intérêts des mineurs qui sont condamnés par le tribunal pour enfants.
Très bien. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je le fais à chaque émission. Quand on veut payer son avocat, on peut aussi avoir recours aux protections juridiques.
Bien sûr.
Est-ce que les assureurs protection juridique peuvent prendre en charge les honoraires d'avocat pour des assistances devant le juge pour enfants?
Alors, en assistance éducative, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu le cas de figure, mais en défense pénale.
En défense pénale, oui.
Après, ça dépend des contrats. Hein, c'est toujours pareil. Il y a des contrats qui sont plus ou moins complets, mais il m'est arrivé, il nous est sans doute tous arrivé d'intervenir pour des familles qui venaient nous voir et qui on sortait de la commission d'office et en disant, mon contrat de protection juridique prévoit la prise en charge de vos honoraires pour la défense pénale.
Donc c'est important. D'accord. Mais merci. C'est important de le rappeler aussi, puisque les auditeurs ou même les clients qu'on a se préoccupent aussi du coût de l'intervention d'un avocat et ces protections juridiques, qu'on paye chaque mois. Hein, c'est pas gratuit, mais en définitive, lorsque vous avez un souci, notamment avec un de vos enfants, vous pouvez actionner votre assureur protection juridique qui prendra en charge une partie ou la totalité des honoraires d'avocat. Maître Gaspari, nous avons parlé tout au long de cette émission des mineurs auteurs d'infractions ou de crimes. Je voudrais qu'on termine cette émission en parlant des enfants en danger. Alors, je précise à nos auditeurs que notre prochaine émission sera consacrée aux violences intrafamiliales et on évoquera le sort des enfants en danger, mais je voudrais quand même qu'on termine cette émission avec ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel cas considérer qu'un enfant est en danger et que peut-on faire en cas de signalement d'un enfant lorsqu'un enfant est en danger?
Oui, alors là, c'est vraiment un volet complètement différent. C'est une autre partie de notre métier et je crois que c'est celle qu'on exerce. Enfin, ça n'a rien à voir finalement avec nos fonctions habituelles de défense en pénal. Ça demande, je trouve que c'est une matière qui demande de mobiliser plusieurs compétences, plusieurs volets du droit et même à titre personnel, ça c'est pas du tout la même façon de travailler. Je pense qu'on contredira pas ici.
Pas du tout.
L'assistance éducative, donc l'enfant en danger, c'est une autre partie évidemment du droit des mineurs. Là, dans ce cas-là, c'est l'enfant qui est... en danger, c'est très large, hein, évidemment. Alors, classiquement, évidemment, il y a le danger imminent d'un enfant qu'on sait maltraiter. Physiquement, je veux dire, sur lequel on commet des violences ou des violences physiques ou des violences sexuelles. Il y a l'enfant, qui est en danger vraiment chez lui. Dans ces cas-là, la plupart du temps, les signalements proviennent des établissements scolaires ou en tout cas de l'extérieur. Mais le danger, ça peut aussi s'entendre de manière beaucoup plus large, puisqu'en fait on nous dit que un enfant en danger, c'est finalement un enfant qui peut pas, dont les conditions ne sont pas réunies pour que il s'épanouisse et pour que sa moralité, sa santé, sa sécurité soit assurée au sein de son foyer. Donc c'est vraiment très large et je vous dis, à titre d'exemple, moi j'ai déjà eu un dossier en assistance éducative où finalement les parents étaient présents, étaient pas des parents défaillants comme on peut l'entendre. En revanche, ils ne voulaient absolument pas entendre raison sur le fait que leur fille avait des difficultés très importantes au niveau scolaire et qu'il fallait absolument que cet enfant ait des diagnostics de poser différents. C'est des parents qui étaient totalement dans le déni. Hein, et donc, c'est une enfant qui est en souffrance totale à l'école et à l'extérieur. Et un signalement a été fait de l'école Le procureur de la République s'est donc saisi et a saisi un juge des enfants qui a reçu cette famille et qui a donc fortement conseillé, enfin même enjoint dans le cadre de l'assistance éducative prononcée, les parents à faire diagnostiquer leur enfant parce que c'est un enfant qui était en souffrance du fait de l'absence de diagnostic et de soins appropriés. Donc voyez, pour vous dire que le danger, c'est pas forcément je tape mes enfants ou c'est beaucoup plus large que ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le numéro d'urgence, mais je pense que vous en parlerez plus longuement sur l'autre émission, c'est évidemment c'est le 119. C'est vraiment lorsque toute personne qui a connaissance d'une situation de danger imminent où il faut appeler ce numéro-là. Sinon, la possibilité, alors si c'est les représentants légaux, si par exemple je suis mère de famille et j'ai appris que mon enfant avait été violenté par monsieur ou par la nouvelle compagne de monsieur, etc. Là, évidemment, on peut aller déposer une plainte au nom du mineur. Ça, c'est une possibilité. Mais si on n'a pas d'intérêt à agir parce qu'on ne représente pas le mineur, parce qu'on n'a pas de lien avec lui, de lien légal, il y a aujourd'hui, enfin depuis quelques années maintenant, ce qu'on appelle la CRIP. C'est le Centre de recueil d'informations préoccupantes. Et en fait, là, toute personne peut contacter la CRIP pour signaler, en tout cas, dire que voilà, sur telle personne, on a eu des doutes, on a eu connaissance de telle dénonciation, des faits d'agression, des faits de maltraitance. Et la CRIP est en fait un centre, comme j'ai dit, de recueil d'informations préoccupantes, va se saisir et peut-être faire une enquête. Le procureur de la République sera informé de la saisine de la CRIP et la CRIP en fait va travailler avec les travailleurs sociaux qui vont diligenter une enquête au sein de la famille. Elle peut aller dans les établissements scolaires, elle va recevoir les parents, le mineur et peut-être qu'à l'issue de cette enquête, il y aura une saisine du juge des enfants, voire peut-être un placement en urgence. Ou en tout cas simplement une saisine du juge des enfants qui recevra la famille et qui pourra peut-être mettre en place une assistance éducative pour aider cette famille à mieux fonctionner ou à essayer de comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à votre question.
Vous avez rappelé le numéro 119. Oui. Alors ça, c'est les enfants, toute personne. Les enfants peuvent également composer ce numéro-là.
Toute personne.
Si on est le représentant légal et qu'on a connaissance d'une situation de danger de son enfant, en tout cas, là, on a parlé des maltraitances, mais en tout cas, on peut déposer plainte.
Même à l'école, de harcèlement,
Donc, on peut déposer plainte. D'ailleurs, c'était une de mes autres questions, maître Jean-Baptiste Audier. Est-ce qu'un mineur peut déposer plainte tout seul?
Non.
Il est obligé d'être accompagné de son
représentant légal ou d'un adulte, si par définition il veut porter plainte contre ses parents. A priori, ce serait mieux qu'il le fasse sans eux. Il n'a pas la personnalité juridique pour ester en justice et pour engager une action sans un adulte qui l'accompagne. Et je vous en reparlerai sans doute à l'occasion de l'émission sur les violences intrafamiliales, mais il faut dire aux enfants de parler aux adultes. Parce que c'est souvent on observe souvent ce phénomène avec des... Alors, ça vaut d'ailleurs pour les délinquants ou pour les enfants qui sont en danger, mais je pense que c'est pas peut-être la majeure partie de votre auditoire, mais voilà, il faut que les enfants puissent se servir des adultes, et c'est d'ailleurs un peu ce que nous on fait en assistance éducative. Mais effectivement, il peut pas franchir seul la porte d'un commissariat pour déposer plainte.
Donc c'est aussi la difficulté de ces enfants-là qui pourraient être en danger. Alors surtout quand les violences, on y reviendra dans la prochaine émission, mais sont exercées au sein de la famille. C'est
quand ils sont scolarisés, ils ont des relais à l'intérieur de l'école ou du collège. Quand en plus ils sont déscolarisés, ça devient un peu plus technique.
Mais en tout cas, ne pas hésiter, en tout cas, à parler aux adultes qui
sont à leur disposition, entre guillemets.
Oui, d'accord.
Mais c'est pas toujours très simple, effectivement.
Très bien. Bon, ça fera l'objet de discussions lors d'une autre émission. Maître Anaïs Tos, est-ce que en quelques secondes, alors je sais que l'exercice est difficile, mais lorsqu'un enfant, l'effort de concision des avocats. Vous avez quelques minutes, maître, pour nous rappeler les mesures qui peuvent être prononcées par le juge pour enfants en cas d'enfant en danger. Alors, maître Gaspari a évoqué l'assistance éducative. Alors, j'ai pas les termes. Mais après une enquête sociale qui conclut à un danger, par exemple, d'un enfant dans son foyer, qu'est-ce qui peut faire le juge pour enfants ?
Alors, le juge des enfants, mais il va organiser une audience dans le plus bref délai. Avec la présence du mineur ainsi que ses représentants légaux et l'avocat qui peut intervenir. Je fais une parenthèse, je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait être assisté à toutes les étapes de la procédure, le mineur obligatoirement par un avocat. Dans le cas d'une audience en assistance éducative, ce n'est pas une obligation, c'est une option qui est à la discrétion tant du magistrat que du mineur lui-même. Voilà. Donc il peut y avoir également l'avocat qui interviendra dans le cas d'une audience relative à l'assistance éducative, mais ce n'est pas obligatoire. Je termine sur votre question. Vous m'avez dit 2 minutes, mais j'essaye d'être la plus rapide possible. La mise en place d'une assistance éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire que ce sont des éducateurs professionnels référents qui vont accompagner la famille au sein de toutes les étapes de la vie familiale et au quotidien lorsqu'ils vont... peut-être déceler un danger. Le danger, il est gradué exactement parce que si c'est un danger imminent et très, très, très grave, à ce moment-là, le juge d'enfant n'hésitera pas à mettre en place une mesure de placement pour extraire l'enfant de son lieu familial afin qu'il bénéficie de toute la protection et la sécurité nécessaires. Mais à savoir que effectivement, avant d'avoir une telle décision, il y a des évaluations, il y a des entretiens à la maison qui peuvent être faits, il y a des visites domiciliaires par ces éducateurs référents qui peuvent être faites également pour s'assurer d'une prise en charge peut-être adaptée par les représentants, et à défaut d'une prise en charge inadaptée, bien sûr orientée vers un placement. C'est très difficile, Sonia, de vous évoquer cette matière en quelques secondes, mais évidemment, je rejoins mes confrères, si un enfant est en danger, il y a urgence à intervenir, que vous soyez, chers auditeurs, peut-être amis, parents ou grands-parents, membres de la famille, n'hésitez pas, il y aura toujours une porte ouverte chez n'importe quel adulte référent, que ce soit l'infirmière scolaire, que ce soit la maîtresse à l'école, que ce soit le directeur sportif, que ce soit peut-être l'ami de votre ami. Il faut alerter, il faut qu'il y ait une prise en charge immédiate pour pouvoir mettre en sécurité les enfants qui sont en danger au sein de leur famille.
Merci pour ces précisions. C'est très clair. Vous avez ouvert beaucoup de perspectives, de sujets pour notre prochaine émission consacrée aux violences intrafamiliales. Et je vous en remercie. Maître Audier, je voudrais terminer cette émission avec un petit tour de table. Et lorsque je vous ai interrogé sur les sujets que vous vouliez aborder, vous m'avez parlé de ce projet de loi sur la comparution immédiate des mineurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots?
Oui, merci. Je vais à nouveau râler, donc.
Mais c'est faites-vous plaisir, voilà, c'est votre antenne. Allez-y.
C'est la même proposition de loi, ou enfin, en tout cas, j'ai entendu parler de transposer le système qui existe pour les majeurs aux mineurs. Voilà, c'est contraire à tous les principes qui sont des principes à valeur constitutionnelle sur la primauté de l'éducatif. C'est contraire aux engagements internationaux pris par la France et notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, qui veulent que un mineur, ça ne se juge pas rapidement. Un mineur, il faut justement prendre le temps, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, avant de passer sous les fourches codines d'une sanction un peu expéditive. C'est le contraire de la justice des mineurs, la comparution immédiate. Donc, il faut prendre le temps et, à nouveau, on veut... essayer de rassurer le peuple avec des mesures spectaculaires, mais qui sont le contraire de ce qu'il faut faire en matière de justice des mineurs. Donc voilà.
Donc il faut surveiller cette réforme qui peut être un peu préoccupante sur le droit des mineurs. Bon, est-ce que vous avez un dernier message à passer à nos auditeurs?
L'enfant, c'est notre avenir. Et donc, on y consacre du temps et c'est pas juste pour le plaisir ou parce que les juges sont tous laxistes ou tous les avocats sont de gauche. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ce qu'on entend. Et c'est notre avenir et c'est l'avenir et c'est notre bien à tous. Voilà, l'enfance c'est fragile et il faut tout faire pour que tous les enfants aillent le mieux possible ou le moins mal possible.
Il y a encore du travail. Mais ça, les choses avancent, mais il y a encore du travail. Heureusement, au barreau du Val d'Oise, nous avons des avocats engagés, compétents et passionnés qui prennent le temps, en tout cas, aussi, de venir faire un peu de pédagogie à l'antenne d'IDFM Radio. Maître Anaïs Tos, est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs?
Un petit dernier mot, en deux secondes, ça serait effectivement, encore une fois, trop difficile pour moi parce que j'affectionne particulièrement la matière, mais évidemment, je rejoins Jean-Baptiste, l'enfance et l'avenir, protégeons les enfants, accompagnons-les, adultes que nous sommes, privilégions vraiment le discours, la communication et l'éducatif. La répression, c'est dans un deuxième pan, mais si vous n'avez pas d'abord la marche à suivre, c'est très compliqué d'arriver en fin de route. Évidemment, j'invite également à tous les mineurs qui sont en danger, ne vous isolez pas, ne soyez pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Il y a tout un pan d'adultes qui peut vous accompagner et les mineurs délinquants, croyez-moi aussi que vos carences peuvent être aussi prises en charge et écoutées par tous les majeurs qui vous entourent. Il n'y a rien de pire qu'être seul et d'être isolé et d'être incompris. Et je pense qu'à l'adolescence, c'est souvent ce qu'on ressent de la part de nos jeunes, c'est d'être seul et incompris. Vous ne l'êtes pas, et d'autant plus pas par nous, les avocats, qui affectionnons particulièrement cette matière et à laquelle nous sommes très attachés. Et nous pouvons rester à vos dispositions, bien évidemment.
Merci beaucoup, Maître Julie Gaspari.
Oui, je rejoins forcément leur analyse. De manière plus générale, il y a urgence absolue à remettre des moyens dans la justice des mineurs, à remettre des moyens dans les services éducatifs, parce que, évidemment, on vous l'a dit, et je le répète, nos mineurs d'aujourd'hui seront les citoyens adultes de demain. Et l'on est en train de faire absolument tout à l'envers. Et voilà, c'est une vraie volonté de remettre un budget dans le fonctionnement de la justice des mineurs et dans les services éducatifs. Aujourd'hui, on a des outils qui sont passionnants et intéressants, mais et je dis nous en termes très larges du terme, tous les acteurs de la justice des mineurs ou en tout cas de l'enfance, on ne nous permet plus de mettre en œuvre tous les outils qui sont à notre disposition. On ne permet plus aux acteurs de l'enfance pénale ou éducative de faire leur métier comme ils le souhaiteraient et de venir en aide à ces jeunes. Et c'est pas venir en aide parce que comme rappeler Maître Audier, on est tous c'est pas venir en aide pour venir en aide, c'est venir en aide parce que on a encore peut-être l'utopie de se dire que une main tendue lorsqu'on est mineur, eh bien ça fera peut-être un adulte qui se sera dit qu'on aura été là pour lui à un moment donné et qui peut-être pourra reprendre un chemin un peu plus tranquille et un peu plus apaisé dans sa vie d'adulte. Donc vraiment, vraiment, il y a urgence à remettre les moyens là, parce que sinon, on aura aussi des majeurs de plus en plus en correctionnel et dans nos prisons, et je crois pas que ce soit vraiment l'objectif.
J'ai envie de dire wesh frérot.
Wesh frérot. Eh bien, on va terminer cette émission là-dessus. Merci mes frères, merci mes confrères surtout. Merci d'avoir été les invités de Tous les droits, une émission par vous et pour vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio IDFM98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio 98 FM. Belle journée et excellente semaine.